Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Sourat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie.
Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون
Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant, comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Il dit, « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. » Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah a fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en bien ? Et les criminels ne sont pas interrogés sur leurs péchés. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente ici-bas dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Qarun, il a été doté certes d'une immense fortune. » Tandis que ceux auxquels le savoir avait été donné dirent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue. » que par ceux qui endurent. Sourate Al-Qasas, ayah 77 à 80. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très contente de te retrouver encore pour un nouvel épisode de Raconte-moi Al-Qasas. Et on en est à notre 19e. Franchement, ça va tellement vite. Il nous en reste encore deux pour clôturer la sourate, en tout cas en termes de ayat. Donc l'épisode 20, puis ensuite l'épisode 21. Et vendredi prochain, on reprend le rythme classique d'un épisode par semaine. Oui, je sais, c'est pas facile de se dire qu'on va espacer maintenant et retourner au rythme d'avant. Et donc, dans l'épisode de vendredi prochain, eh bien, ce sera un épisode récap, comme je te disais. Et c'est aussi dans cet épisode-là que je te mettrai dans les notes de l'épisode le fameux quiz dont je te parlais pour pouvoir gagner la fameuse Umra dont je te parlais à la fin de l'épisode 14, si tu veux le détail de ça. Alors, hier, on avait commencé donc le récit de Qarun, donc c'était la ayah 76, où Allah parlait de Qarun, donc le contexte, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc Allah l'a vraiment présenté par rapport à son comportement, par rapport aussi aux richesses qu'il possédait. Et donc, là, dans la ayah 77, ça continue en fait, parce qu'il y avait les gens de son peuple, donc des gens sages de son peuple, qui croyaient en Allah, qui avaient une certaine sagesse, qui lui ont dit « la tafra ». Donc, ne fais pas preuve d'arrogance, ne sois pas trop enjoué, d'accord ? Et on avait expliqué de quelle sorte de joie on parlait. On ne parlait pas du fait d'être heureux tout simplement, parce que la personne qui est heureuse, la bonne joie, on va dire, elle mène forcément à la reconnaissance envers Allah. Et celle dont Qarun est entre guillemets victime, c'est celle de quelqu'un qui amasse en fait expérience sur expérience. Tu sais, ce genre de personnes en fait qui vivent que d'une fête après l'autre. une jouissance après l'autre, un moment de joie après l'autre. Dans le sens, ils sont que dans la surconsommation d'expériences pour se sentir bien, d'expériences en tout cas, des expériences en tout cas toujours dans la consommation. Et bien sûr, pas de reconnaissance envers Allah dedans. Ils n'ont même pas le temps tellement ils sautent d'une expérience à l'autre. Ils finissent en fait par oublier qu'ils sont sur Terre, ils finissent par oublier qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, qu'ils ne sont pas au-dessus des gens. Et c'est comme s'ils vivaient dans un autre monde. Tu le vois des fois chez des personnes qui sont très très riches, très haut placées, certaines célébrités, etc. et tout. T'as l'impression en fait que, je sais pas si ils s'ennuient, parce que justement ils ont tellement de choses, etc. et pourtant ils multiplient des expériences, etc. Mais t'as l'impression justement que, en fait, ils sautent en fait d'événement en événement, de dépense en dépense, En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, tu vois des fois qu'ils ont des comportements hyper déviants. Ils vont consommer des drogues très dures. Ils vont avoir des comportements vraiment déviants, comme si en fait, moi, j'ai beaucoup de peine quand je les vois comme ça. Je me dis en fait que c'est une manière pour eux justement de combler un vide. Toujours en fait se stimuler, se sentir vivre en fait, parce que finalement, quand on a tout. Quand on dispose de tout, on ne manque de absolument rien, on ne sait pas ce que c'est que la fatigue de devoir subvenir aux besoins de sa famille, on a vraiment tout ce qu'on veut en termes de richesse, on va dire. Ça, ce n'est pas un problème d'avoir tout ça. Le problème, c'est quand on ne l'emploie pas dans le bien. Le problème, c'est quand on l'utilise que pour soi. Les gens doivent être logiques, en fait. Comment est-ce qu'un être humain peut s'imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait doté d'autant de richesses pour, en fait, ne le garder que pour lui ? Pour multiplier avec les dépenses, les expériences, lui et sa famille, et point barre, de temps en temps, allez, je fais des petits trucs philanthropiques, etc. Comment la personne peut imaginer ça? Sachant qu'un être humain, si on regarde bien, c'est prouvé en fait, si on regarde bien les données sociologiques, etc. et tout, un être humain qui mange à sa faim, qui a un toit où il peut circuler tranquillement, sa famille est en sécurité, ses enfants peuvent aller à l'école, lui peut avoir un boulot épanouissant. Elle a vraiment tout ce dont elle a besoin pour s'occuper bien aussi de sa famille. La santé, ça va. La famille, ça va. Eh bien, en fait, on est déjà riche avec ça. Et au-delà d'un certain montant de revenus, en tout cas, si on parle de choses qu'on consomme que pour soi, on ne parle pas encore de ce qu'on fait comme acte de charité, etc., je pense qu'au-dessus d'un certain seuil, on ne peut plus apprécier. Si c'est un argent qu'on ne partage pas, bien sûr, que l'argent qu'on doit consommer pour soi et sa famille rapprochée, au-delà d'un certain montant, ça n'a plus de goût. C'est comme du déjà vu, ça devient du gaspillage. Je pense que, on va dire, le surplus là de richesse par rapport à ce qui nous suffit pour bien vivre, hein, je ne parle pas de vivre vite fait, de bien vivre, de pouvoir avoir donc tout ce qui est les premières nécessités sont réglées, le bien-être c'est réglé. En fait, vraiment, les divertissements, etc. et tout, normaux qu'on aime avoir sont comblés. Mais au-delà de ça, en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste dilapider son argent, il reste faire des choses un peu bizarres, avoir des comportements déviants, dépenser l'argent dans des choses, enfin, ça n'a ni queue ni tête. À la fin, ça ressemble à je ne sais quoi. Il faut juste scroller un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir ce que certaines personnes riches se font de leur argent. On se dit, mais ça va dans leur tête. Enfin, c'est l'ennui, en fait. C'est vraiment l'ennui. Et c'est ce surplus-là, comme je disais, par rapport à ce dont on a besoin pour être bien sur le plan matériel et être très à l'aise, eh bien... Il n'a de goût et il n'est utile, il n'est agréable que s'il est partagé avec d'autres, redistribué même, je dirais. Et la satisfaction que ça apporte, la baraka que ça apporte, ça n'a pas de prix. Donc voilà ce que signifiait justement la tafrah hier quand les pieux du peuple de Qarun étaient en train de le conseiller. Et ils continuent leur discours. Tu vas voir que il donne 5 conseils, là, entre la ayah d'hier, 76, et aujourd'hui, tu peux déceler 5 conseils. Donc le premier, la tafrah, ne t'en joue pas, ne sois pas trop arrogant, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, d'accord? Deuxièmement, et recherche ce qu'Allah t'a donné. Dans ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Donc, وَبَتَرِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهَ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Donc, recherche dans ce qu'Allah t'a donné, l'akhira. Et là, ils disent pas l'akhira seulement, ils disent darul akhira. Donc la demeure, la maison dans l'au-delà. C'est impressionnant justement qu'ils aient parlé de maison, comme pour dire, tu vois, tout ce que tu possèdes ici, eh bien, c'est rien du tout comparé à une seule maison que tu aurais au paradis en fait. Ça ne se compare pas. Et donc ça, c'est le deuxième conseil. Je vais parler aussi du troisième directement et après, comme ça, on pourra les expliquer ensemble. Et après, ils disent « Wala tansa nasibaka minad dunya ». Donc n'oublie pas ta part dans la dunya. Et ça, c'est très beau et très intelligent, en fait, que ce conseil apparaisse ici. Parce que dans tout, dans la vie, on équilibre. Et regarde comment il parle de nasrib, donc nasaba. Dedans, il y a la même racine qui sert à dire nisab. Tu vois, c'est la part qu'on paye quand on verse la zakat. On regarde le prix du nisab, d'accord ? Donc, c'est l'outil de mesure qu'on va utiliser justement pour savoir par rapport à l'once d'or, etc., le cours de l'or, comment on fixe la zakat. Donc, pour dire, en tout cas, c'est quelque chose qui a une part et c'est une part de valeur. N'oublie pas ta part de valeur dans ce monde. N'oublie pas de te réserver une bonne part ici-bas, dans cette dunya. Et là, on a des mots-clés qui reviennent, en fait. On a des mots-clés qui reviennent. Akhira revient, dunya revient. Et ça, ce sont des mots-clés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà donnés dans cette sourate-là. Et donc, c'est comme si c'est Allah mettait en application. On regarde quand quelqu'un l'applique, quand quelqu'un en parle dans la vie concrète, qu'est-ce que ça donne. Ici, on a akhira et dunya. Et cette ayah vient nous montrer qu'en fait, qu'elles ne s'opposent pas. Elles ne s'opposent pas déjà parce que, déjà, elles ne sont pas comparables. Rappelle-toi de la métaphore de dunya qui n'est rien d'autre en fait que les gouttes d'eau en fait qui sont suspendues à ta main si tu la trempais dans un océan. Al-akhira est l'océan. Al-dunya, c'est les gouttes d'eau là que tu as réussi à tirer avec tes doigts. Donc c'est infime. Donc est-ce qu'on saurait comparer ça et ça ? On ne peut pas comparer en fait. Donc on comprend que al-dunya, c'est un peu le sort de laboratoire dans lequel on séjourne, le temps de faire nos preuves, le temps d'amasser justement les bonnes provisions pour Al-Akhira. Donc les deux ne s'opposent pas. Ils sont quelque part complémentaires, ce serait même l'un prépare à l'autre. Donc si dans le temps de préparation, je me comporte comme quelqu'un qui demeure, qui séjourne, qui ne bougera plus et en fait qui fait toute sa vie là-bas comme s'il n'y avait pas de après, eh bien le après, quand on va y arriver, parce qu'on va y arriver, enfer ou paradis, en tout cas c'est l'Akhira, c'est la vie dans l'au-delà, eh bien qu'est-ce que ça donne en fait ? Ça donne des gens qui auront des caisses renflouées, fil akhira, et il y en aura qui auront des caisses vides, alors qu'ils seraient très étonnés de se rendre compte que ici-bas, c'était rempli. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette ayah, c'est que ça nous rappelle que la richesse, je te l'avais dit, mais je le répète, n'est pas un mal en soi. On peut l'utiliser pour des causes nobles, ça c'est évident, on signe, on le sait. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire du mal. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il faut se rappeler qu'on va rendre des comptes sur nos possessions. Et c'est ce que dit ces gens sages à Qarun. Rappelle-toi que tu vas rendre des comptes sur toutes tes possessions là. D'accord ? Donc, tu n'as pas de quoi t'en jouer et de quoi être arrogant de posséder autant. Parce que si on réfléchit logiquement, plus tu possèdes, plus tu vas rendre des comptes à Allah. Et rappelle-toi que ton jugement sera plus long que les autres. Et là, repense à tous ces kunuz là qu'il a, hein, ces entrepôts remplis, dont les clés, en fait, juste les clés pour les porter, il faut un groupe d'hommes qui va les porter non sans peine, d'accord, avec beaucoup de pénibilité. Donc imagine, là on parle pas de... Je pense qu'à côté, imagine la personne la plus riche aujourd'hui, d'accord, les plus riches, Bill Gates, tout le tralala, etc. Prends-les, à côté, ce sont des petits joueurs, à côté des richesses que Qarun avait. Donc imagine en fait la durée de son jugement. Imagine tout le temps en fait, la file d'attente, ouais c'est ça, le temps d'attente qu'il va avoir. Il y a des personnes qui vont partir vite vers le paradis, ceux qui n'avaient pas énormément de comptes à rendre en termes de biens matériels. Tout le monde aura un certain nombre de comptes à rendre en fonction du temps de vie qu'il a vécu, du nombre d'actions qu'il a fait, de son statut, de son rang social, mais le côté richesse là, on le sait de ce que Rasulullah nous a expliqué, il y en a, à cause de leur richesse, même si c'est des gens bien qui ont dépensé, eh bien, Yawm al-Qiyamah, ça va être long, ils vont attendre longtemps, parce que Allah va prendre les choses une à une. Imagine Harun déjà, juste ces clés-là, une seule clé, ça va lui prendre du temps à justifier ça. Les clés entières, laisse tomber. Alors prends tout ce que ces clés-là sont censées garder. Allah nous montre en fait l'étendue des richesses qu'il avait. Et pour que, justement, pour se rendre compte que c'est pas imaginable, mais pour en même temps qu'on puisse imaginer que c'est énorme, eh bien, il nous parle juste des clés. Qui a du mal à porter des clés ? D'accord ? Et bien là, il dit, voilà, il faudrait un groupe de personnes. C'est pas quelqu'un comme moi, en tout cas, dont on parle dans cette ayah quand on parle de gens très forts, robustes, etc. Et bien, on parle de gens très, très, très forts. Et bien, eux seraient dans une grande difficulté. Alors, imagine. Donc, c'est très logique, en fait, qu'il dise ça. Ne t'en joue pas trop. En fait, finalement, les gens comme toi devraient vivre, limite, pas dans la peur, mais devraient vivre sur le qui-vive, quand même, dans leur vie. Ils devraient vivre en se disant, tout ce que je dépense là, attention, je vais rendre des comptes. Personnellement, moi, si j'étais à sa place, je pense que tous les jours, j'imaginerais le moment où je suis debout devant Allah et qu'il prend mon livre de compte et qu'il me demande des comptes sur chaque centime. Et à ce moment-là, je pense que n'importe qui voudra se dire, si seulement j'avais juste qu'un compte bancaire et c'est tout, et un peu d'argent de poche, et voilà, si seulement. Et en même temps, posséder beaucoup, c'est aussi un bien. Si on dépense ce que Allah nous donne dans le bien pour l'akhira et dans dunya aussi en vue de l'akhira, c'est le pactole. Le jugement va être long, mais les récompenses après vont être énormes. Et la place au paradis, on devance les autres aussi. Donc, dans tout, Allah est juste. Si tu veux obtenir de grands résultats, eh bien, il va falloir faire de grandes actions. Et donc, c'est très beau ce parallèle entre recherche à l'akhira et n'oublie pas ta part fid dunya. Et là, quand on parle de ça, j'aimerais aussi parler de la manière qu'on a de dépenser ici-bas. Nous, spécifiquement les musulmans. J'ai remarqué que les musulmans sont très frileux lorsqu'il s'agit de dépenser dans le religieux, lorsqu'il s'agit de dépenser dans ce qui va vraiment les élever le plus rapidement possible et de manière plus efficace auprès d'Allah. Il y a plein d'actions, en fait, si tu dépenses dedans, qui n'ont pas forcément des pôles religieux, tu peux gagner des hasanat, d'accord ? Mais quand je parle du religieux, je parle de tout ce qui te sert à t'instruire, ce qui sert aux musulmans pour prier, les mosquées, les écoles, les cours, etc. Et pourtant, c'est la voie la plus efficace pour gagner des points auprès d'Allah. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace que d'investir dans un autre pôle, même si c'est fait dans le halal. Pour rechercher l'akhira en dépensant ses biens, dépenser dans le religieux, dans ma pratique religieuse, est beaucoup plus intéressant. Et je suis toujours étonnée de la facilité avec laquelle on va pouvoir dépenser pour des smartphones dont les prix, des fois, franchement, faut le dire, ça dépasse l'entendement. Et à chaque fois, le prix augmente et à chaque fois, il y a des gens qui vont acheter. Pareil, dans les cosmétiques, ce qu'on est capable de dépenser, dans les restaurants, dans les vêtements. Et encore une fois, ce n'est pas haram, hein, tout ça. C'est pas haram de posséder toutes ces choses. C'est pas haram de dépenser dans un smartphone, hein. Même cher, c'est pas haram, ça dépend ce que tu en fais. Mais est-ce qu'on recherche à l'akhira à chaque fois qu'on dépense dans ces choses-là, honnêtement? Est-ce que quelqu'un, quand il achète un smartphone, il pense à l'akhira? Il se dit, j'achète ça comme investissement pour mon akhira. Ça a l'air grand comme question, comme ça. Mais en réalité, c'est la question qu'on devrait se poser. Et pourtant, je me dis que chaque jour, en fait, dans ce que je dépense, je devrais me demander, tu dois te demander, dans tout ce que j'ai dépensé aujourd'hui, quel pôle de dépense a été fait pour l'akhira? Si je dépense dans des cours pour apprendre à lire l'arabe, dans le but de pouvoir lire le Coran, et lire le Coran, j'ai pas besoin de faire de dessin sur ce que ça rapporte. Ça, c'est pour l'akhira. Direct, direct. Si c'est fait avec un cœur sincère, bien sûr. Si je dépense pour prendre en charge un orphelin, vraiment de manière complète. Si je dépense pour distribuer des repas pour des nécessiteux, distribuer des repas d'iftar en plein Ramadan, si je dépense pour une umrah, si je dépense dans l'éducation religieuse de mes enfants, si je dépense en cadeaux ou pour faire des courses ou pour soulager ou pour faire juste plaisir à mes parents. Un homme, toutes les dépenses qu'il fait pour sa famille, hein, les hommes, c'est un grand honneur qu'Allah vous fait à travers ça. Eh bien, tout ça, ce sont des dépenses pour l'akhira. Mais au moment où je les fais, est-ce que j'y pense? Et on arrive, par exemple, aussi à payer de grandes écoles d'ingénieurs, d'architecture, plein d'écoles qui sont pas, voilà, où faut vraiment dépenser, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de boursier, il n'y a pas, voilà, des grandes écoles, des grandes prépas, par exemple. Et on se plaint quand on doit payer quelques euros pour des cours de Coran. Je dis bien quelques euros. C'est rien comparé à ce qu'on en obtient. Personnellement, je ne compte pas ce que j'ai dépensé dans mon apprentissage coranique. Je ne parle pas d'apprendre par cœur, d'accord, d'apprendre par cœur le Coran seulement. Ça, une fois que c'est fait, il reste plein de choses à faire. Je ne sais pas à combien je suis de dépenses pour mon Coran. Et si je dois rajouter, je rajoute. Chaque opportunité, je la prends. C'est censé être un meilleur ami. C'est censé être celui qui, j'espère, Yom Al-Qiyama, apparaîtra sous la forme d'un personnage et d'une personne et va témoigner pour moi auprès d'Allah. C'est la parole d'Allah qui témoigne devant Allah pour nous. Et c'est les hadiths qui nous le disent, que le Coran va apparaître sous la forme de quelqu'un. Et on sera étonné, on va se dire, c'est qui celui qui est juste à côté de moi et qui prend ma défense là comme ça et qui intercède pour moi, j'ai même pas besoin de me justifier. Eh bien, c'est ton Coran et il va se présenter comme ça, imagine. Donc il y a des gens, Yom Al-Qiyama, qui vont se sentir très seuls. Ceux justement qui suivaient des mauvaises personnes et au moment où ils vont vouloir leur soutien, ces gens-là vont dire, ah là, je le connais pas. C'est pas mon problème. Ah, c'est pas moi qui l'adorais, hein. C'était ses passions, je sais pas quoi, je le connais pas. Donc il y a ça, et il y a le fidèle des plus fidèles, le Coran, qui lui ne te quittera pas. Pourquoi ? Parce qu'ici-bas, tu l'as pas quitté. C'est ça qu'on recherche. Donc si je peux obtenir ça, parce que je dépense, parce que je transmets, parce que j'apprends, parce que j'applique, j'explique, etc. Bah là, par exemple, typiquement, ce podcast, je cherche à l'akhira. Voilà, c'est un exemple. Toi, en écoutant, tu cherches à l'akhira. En tout cas, formule l'intention. Chaque fois que tu vas discuter de sujets en lien avec le Coran, prenons Al-Qasas par exemple, et je sais que beaucoup, maintenant, c'est des sujets de discussion dans leur famille, ils ont des plans d'action dedans, ils ont tiré plein de conseils à appliquer, ça a changé leur vision des choses dans certains domaines de leur vie. Les retours et les témoignages que j'ai depuis le début de Ramadan sont tout simplement... Enfin, moi, c'est hyper émouvant pour moi de les lire, et je les lis quasi tous. C'est très beau. Et ça, c'est pas moi, c'est le Coran en fait qui s'est révélé à vous. Tout simplement, j'ai été qu'un vecteur. Eh bien, tout ce que tu vas pouvoir appliquer dorénavant, juste en se basant sur Al-Qasas, et toutes les sourates que tu auras lues, apprises, méditées, c'est ton akhira. Eh bien ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Donc, ne sois pas trop enjoué. Dépense de ce qu'Allah t'a donné pour ton akhira. N'oublie pas ta part ici-bas. Et dans le n'oublie pas ta part ici-bas, c'est très important. Donc, fidounia, ça aussi, je voulais le dire. En fait, il ne faut pas oublier de dépenser pour toi. C'est ça qui est beau dans cette ayah. Elle est équilibrée. Et ce sont ces gens du peuple de Moussa, alayhi salam, qui parlent. Mais Allah, en le consignant ici dans le Coran, il est en train de nous dire que c'est quelque chose qu'il nous recommande aussi. Donc, eux, ils parlent à Qarun. Nous, on doit aussi prendre l'exemple. D'accord ? Donc, on n'oublie pas la part ici-bas. Parce qu'il y a une catégorie de personnes aussi qui sont à fond fil akhira. Ils oublient d'être heureux ici, ils oublient de dépenser, ils oublient en fait de profiter. C'est devenu limite grave de prendre du temps pour soi. Il y en a quand on leur parle de, je sais pas, j'entends des gens entre eux qui parlent, oui, bah moi je vais au spa avec ma mère, j'ai amené ma mère au spa, ça fait longtemps qu'elle fait que travailler. Des gens qui disent, oh, c'est quoi cette perte de temps, un spa, ça sert à quoi? Bah, ça sert à se détendre, ça sert à faire du bien, ça sert à partager un moment avec quelqu'un de notre famille, un ami ou une amie, quelqu'un qu'on apprécie. C'est pas du temps perdu, pas du tout. Le spa serait un temps perdu si tu le fais à une heure où tu devrais prier normalement, par exemple, et tu rattrapes pas ta prière, et le temps de prière est dépassé. Oui, là, c'est délétère. Mais prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé, prendre soin de son bien-être et de sa santé mentale, ça, c'est pas palpable, peut-être, mais c'est aussi cultiver son akhira. Et c'est surtout ne pas oublier sa part, fid dunya. Et pourquoi ? Parce que si tu oublies ta part, fid dunya, tu es frustré petit à petit. Tu es frustré et tes actions pour l'akhira prennent un goût complètement différent. Donc, il ne faut pas oublier de dépenser pour toi ici-bas. Parce que tu es ici, tu vis ici. C'est comme si tu es dans un hôtel. L'hôtel, on ne te dit pas de séjourner là-bas éternellement, de faire comme si c'était ta maison définitive, d'accord ? On ne refait pas le papier peint de l'hôtel. Bien, ok. On ne domicilie pas son courrier à l'hôtel, d'accord ? Mais par contre, je ne vais pas réfléchir comme ceux qui réfléchissent qu'il n'y a que Akhira qui existe. De toute façon, moi, Dunia, ça ne m'intéresse pas. En attendant, Allah, il t'a fait descendre, fit Dunia, en fait. C'est ici qu'il t'a fait faire escale. Donc, si tu refuses de profiter de ce que tu as ici, Akhira, ce n'est pas tout de suite. Hein. Donc, bonne chance pour vivre. Donc, en fait, pour reprendre la métaphore de l'hôtel, c'est comme si tu es dans l'hôtel et tu refuses les services proposés par l'hôtel. S'il y a le repas qui est servi, tu ne le prends pas. Tu dis non, moi, je ne reste pas ici. On te donne un bon lit pour dormir. Ah non, moi, je ne reste pas ici. On te propose de faire le ménage dans ta chambre. Ah non, non, moi, je reste pas ici. On te propose des goodies, un room service, je sais pas quoi. Non, 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 moi, je reste pas ici. Bah non, en fait. N'oublie pas ta part ici. Surtout si t'es avec ta famille. Bah, tu vas pas punir les autres. Parce qu'il y a des gens, ils se punissent eux, ils se punissent leur famille aussi. Non, c'est pas ce qu'Allah nous demande. Toujours le juste milieu. D'accord? Donc, prendre soin de toi et de ta famille. Ne fais pas comme Picsou, quoi. Ne fais pas comme Picsou. Et il y a une très belle sagesse dans le fait justement de ne pas oublier de vivre ta vie ici, c'est parce que on sert toujours d'exemple aussi pour les autres. Surtout quand on a les moyens, entre guillemets, là je ne parle pas forcément des gens très haut placés, hein. Bien vivre, être au-dessus du seuil de pauvreté, c'est déjà énorme. Hein. Vivre convenablement, juste ça déjà. Les gens nous observent. Il y a des personnes qui nous regardent, qui nous envient, qui nous admirent, qui ont moins que nous. Quelle image on leur donne de l'islam, de la façon de vivre, et même les non-musulmans, si en fait ici ils nous voient vivre comme des misérables, alors qu'on possède, alors qu'on pourrait. Nous on vise à l'akhira. Dans nos mots, dans nos paroles, ce sera toujours akhira, akhira. Mais en fait les gens ils sont ici. Donc eux vont envier ce que tu possèdes, parce qu'ils aimeraient le dépenser ici, et ils voient la manière dont tu dépenses les choses, la manière dont tu vis d'une manière très... on va dire misérable, hein. Je parle pas de ceux qui veulent vivre une vie modeste, minimaliste, hein. Faut vraiment pas changer mes propos. Je parle pas de ça. Je parle de ceux qui se privent, mais qui se privent de vivre des belles choses. Eux et leur famille, d'accord? Je parle de ceux qui vont s'offusquer à l'idée de faire un restaurant, d'accord? Bah non, c'est de la dépense pour rien. Je parle de ceux qui vont s'offusquer, comme je dis, à l'idée de faire un voyage en famille. Ah bah non, c'est de l'argent dépensé. Ou l'histoire du spa, là, comme tout à l'heure. Parce que j'en ai entendu des gens parler comme ça et j'étais étonnée. Et quand ils voient que je défends ça, ils se disent « Toi, Zeynep, toi, Oussata Zeynep, tu dis ça ?» Mais ça veut dire que toi aussi, tu pourrais perdre ton temps dans un restaurant. Oui, je pourrais gagner du temps dans un restaurant. C'est quoi ces façons de penser? Bon, après, il y en a qui ont moins ce problème-là. En général, le problème, c'est plus ceux qui vont trop au resto, trop au ciné, trop faire des divertissements, trop, plutôt que ceux qui n'en font pas assez. Mais il y a les deux, en fait. Et les deux sont pas bons. Les deux extrêmes ne sont pas bons. Donc, faut pas faire comme Picsou, comme je disais. Picsou, il amasse. Et en fait, il n'en dépense pas. Il laisse pas les autres dépenser. Et ça, c'est pas bon, en fait. Et en fait, si demain tout ça disparaît, bah, t'es misérable deux fois. Parce que tu en as pas profité, t'en as pas fait profiter les gens. Et à la fin, ça ne te suit pas dans ta vie éternelle non plus. C'est vraiment dommage. D'accord? Donc il faut en profiter, sinon, il y a également, on s'expose à un risque d'ingratitude. Rappelle-toi, ce que je ne dépense pas, donc que je laisse s'amasser, c'est très difficile de faire preuve de reconnaissance là-dedans. Parce que ce qui est thésaurisé comme ça, qui n'est pas touché, etc. et tout, on développe un truc où on finit par se dire, comme on fait l'effort de garder, on a presque l'impression que ça vient de nous, que c'est grâce à nous, c'est par notre effort de gestion de l'argent, c'est par notre effort de générer de l'argent, etc. et tout, que ça vient de nous. Et on oublie qu'en fait, non, ça vient d'Allah. C'est Allah qui t'a donné tout ça. Mais comme tu le dépenses pas, tu n'as même pas cette notion, en fait, d'être reconnaissant envers Allah pour t'avoir donné ce qui t'a permis de dépenser. Non, tu le regardes, tu l'admires comme ça, tu le regardes, et en fait, t'en fais rien d'autre que bah, regarder. Et donc, le quatrième conseil qu'il donne, donc, d'abord, ne t'en joue pas trop, ne sois pas trop arrogant. Ensuite, n'oublie pas ton akhira, dépense de ce qu'Allah t'a donné pour l'akhira. N'oublie pas ta part fid dunya, troisièmement. Et ensuite, il dit ahsin kama ahsanallahu ilayk. Fais preuve de bienfaisance. Dedans, ahsin, on a l'ihsan dedans, donc l'excellence. Ce qu'Allah t'a donné comme bien, comme bienfait, fais-en autant, en fait. Fais ça. Et franchement, je me dis, les gens qui sont très aisés ont une chance inouïe d'acquérir les faveurs d'Allah. Peut-être plus rapidement que les autres. Mais il y a une perte de temps qui fait qu'ils en profitent, ils en profitent. Et peut-être un jour, ils vont se rappeler que c'est pas ça qui me rend heureux, en fait. J'ai toujours un vide. Et petit à petit, peut-être qu'ils vont se réveiller. Et il y en a qui se réveillent jamais, en fait. Qui meurent avec ça, avec toute cette amertume, ce vide-là. Et c'est dommage, ça n'a servi à rien. Donc, l'ihsan, c'est rendre vraiment ce qu'Allah t'a donné comme bienfait. Et le dernier conseil qu'il donne... Voilà, tabaril fasad fil ard. Et ça, c'est très très fort. Ne répands pas la corruption sur terre. Fais pas comme Pharaon, en fait. Écrase pas les gens. Surtout, toi, t'écrases les tiens, en fait. C'est encore pire. Et tu te pavanes et tu penses vraiment que. En fait, tu n'agis pas du tout comme quelqu'un qui sait qu'il y aura une vie dans l'au-delà. Et cette corruption sur Terre, ici, celle qui est vraiment mise en avant, ici, cette forme qui est mise en avant, c'est quand, en fait, ce sont des biens et des richesses qui ont été amassés. Donc, c'est comme s'il disait, c'est vraiment des biens et des richesses que tu as amassés. Et c'est ça qui t'a donné le droit ou le pouvoir de sentir que tu avais la possibilité de combattre Moussa alayhi salam, la possibilité d'écraser les gens. Et ça, c'est gravissime. Il y a des personnes au-delà d'un certain niveau de vie, ils pensent en fait qu'ils sont au-dessus des gens, au-dessus des lois, tout simplement. Et on le voit dans sa réponse à Qarun. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est par une science que je possède de tout ce qui m'est venu. D'accord ? Donc là, on le conseille. Et c'est très important de prendre le conseil quand on nous le donne, d'accord ? On le conseille, mais clairement, il n'aime pas ça. Parce qu'il dit, innama utituhu ala ilmin indi. Donc je l'ai obtenu, j'ai obtenu tout ça, on m'a donné. C'est ça qui est subtil à comprendre, c'est que il se contredit en fait. Il dit pas j'ai créé tout ça. Il dit pas j'ai gagné tout ça moi-même. Il précise que ça lui a été donné. Mais il précise pas c'est qui lui a donné. Si tu regardes bien, il a pas dit que c'est Allah, mais il sait que c'est Allah. Mais peut-être qu'il a pas dit que c'est Allah parce qu'il a oublié que c'était Allah. Tellement il a fini par se convaincre et se complaire dans le fait que c'était lui qui avait amassé tout ça. Donc il dit, je n'ai obtenu tout ça que par, en fait, une science que j'avais. Là, par contre, il a bien montré qu'il a oublié, ou plutôt il a peut-être fait exprès, de dire que la science vient de lui. Donc c'est par une science que j'ai, moi, naturellement. Je suis intelligent, je suis fin, je suis vraiment compétent. Et j'ai utilisé mon intelligence, j'ai utilisé ma finesse, j'ai été malin, en fait. J'ai été très intelligent et donc du coup, c'est pour ça qu'on m'a octroyé ça. Donc quand il parle de « on m'a octroyé », soit il parle d'Allah, mais il ne veut pas le dire, soit il parle de Pharaon, parce que c'est lui finalement qui lui a donné ce rang-là. Et dans tous les cas, dans les deux cas, en fait, c'est grave, parce que dans le cas d'Allah, il a oublié, ou en tout cas, il lui tourne le dos, et dans le cas de Pharaon, bah, on comprend encore plus qu'il n'a pas compris la chose. Donc, là, on le conseille, comme je disais, son peuple prend le temps de le conseiller. Et c'est pas facile de conseiller quelqu'un qui se comporte déjà comme ça. Et lui n'aime pas ça. Il est sur... on peut comprendre ça comme s'il était sur la défensive, mais genre, t'es qui toi déjà pour me parler ? Mais on comprend aussi que c'est une manière très hautaine de répondre. Comme pour dire, mais écoutez les gars. Écoutez, je sais que c'est pas évident pour vous. Vous n'êtes pas aussi intelligent que moi. Vous n'êtes pas aussi malin. C'est compliqué. Vous n'avez pas su saisir l'opportunité quand elle s'est présentée. Moi, j'ai saisi. Je suis un grand, grand, grand homme d'affaires maintenant, etc. Écoutez, je vous dis comment j'ai obtenu ça. C'est par une science que j'ai. Voilà. Donc, encore une fois, il n'appelle pas à l'espoir, en fait. Il parle vraiment comme quelqu'un qui ne veut pas que les autres aient la même chose que lui, qui ne veut pas que les gens partagent avec lui. Parce que sinon, il aurait dit, je l'ai obtenu en faisant ça, ça, ça. Mais même là, il dit, je l'ai obtenu grâce à quelque chose que seul moi possède, en fait. Quelque chose qui est en moi, ma science. Donc même là, je suis désolée pour vous. Vous êtes des losers, vous serez toujours des losers. C'est comme s'il leur disait ça un peu. Mais on peut le comprendre dans les deux sens. Comme s'il était un peu sarcastique et en même temps sur la défensive. Donc, tu vois, l'arrogant, quand on le conseille, il est encore plus arrogant après. C'est horrible à voir. Et Allah, là, c'est lui qui lui répond. Il lui dit, mais en fait, est-ce qu'il ne sait pas que... avant lui, Allah a fait périr des générations qui étaient supérieures à lui en termes de force et en termes de richesse, en termes de biens. Des gens qui étaient beaucoup plus aisés que lui, en fait. Et en l'occurrence, ici aussi, on peut parler de Pharaon. Dans les narrations, en fait, il y a des versions qui disent que cette scène-là, avec Qarun, et quand il a péri, etc., c'était quand ils étaient encore en Égypte et qu'ils n'avaient pas encore été sauvés par Allah et ils n'avaient pas encore quitté l'Égypte avec la mer fondue en deux, etc. Et il y a une version qui dit que cette scène-là, elle s'est passée après. Après que Pharaon ait péri, etc. et tout. Et donc, Qarun, il était là avec toutes ses richesses et tout ça et tout. Bon, les deux peuvent se tenir, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on pourrait parler d'autant de richesses, d'autant d'entrepôts, etc. et tout, s'ils ont émigré ? C'est compliqué de bouger avec toutes ces richesses-là. Donc, Allahu Alam, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, Pharaon peut être utilisé ici comme exemple. Il était beaucoup plus riche que lui. Bah, c'est lui qui lui a donné tout ça. Et il était beaucoup plus haut placé que lui. Il y a des peuples avant aussi qui ont eu plus que lui, d'accord, des générations entières, d'accord, le peuple de Salih, Thamoud, tout ça, ils étaient hyper riches et ils ont péri pourtant. Et des peuples aussi qu'on ne connaît pas, tout simplement. C'est pas tous les gens qui sont peuplés sur la terre que nous connaissons. Nous, on pense qu'on a nos livres d'histoire, nos archives, etc., les bouquins d'histoire, et qu'on a tout dedans, et que rien ne nous échappe. Mais peut-être qu'il y a des peuples qui ont vécu sur terre, sur des parcelles de terre, et personne n'est au courant, à part Allah, ou à part les gens qui étaient de cette époque-là, qu'ils ont vécu. Hein. On ne sait pas, on n'est pas au courant. On sait de l'histoire que ce qu'Allah veut bien qu'on sache, hein. Que ce soit dans le Coran, dans les ouvrages, parmi les historiens, etc. et tout. Si Allah ne veut pas qu'on sache des choses, on ne sait pas. D'ailleurs, des fois, c'est dit hein, dans les vestiges d'histoire, des enquêtes, des compléments d'enquête, on découvre des ossements, des trucs enfouis, carrément des temples et des maisons, etc. et tout, enfouis sous terre. Et personne ne se doutait qu'ils étaient là. Donc, l'humilité de tout ce qui s'est passé avant nous, c'est très important et Allah nous le rappelle régulièrement. Donc Allah, en fait, dit, et il termine en disant, les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Pourquoi Allah dit ça? C'est pour dire que Allah sait déjà tout ce qu'ils ont fait. Il sait. Il ne va même pas leur donner l'occasion de répondre, en fait. Même s'il leur posait la question, ils n'auraient pas de réponse, comme on a vu dans les ayats précédentes. Ils ne pourront pas. Donc Allah ne va pas les interroger, en fait, sur le pourquoi, du comment, de leur richesse. Pour certains, il sait. Et c'est encore plus humiliant, en fait, quand on ne te donne même pas l'occasion de te justifier, de demander pardon, de dire « oui, mais je l'ai fait ». Non, en fait, tais-toi. Ça, c'est dur, ça. C'est-à-dire, tu sais que c'est sentence directement. Allah, il sait, donc il n'a pas besoin que tu justifies. Mais il y a des gens à qui il va demander de justifier, même si c'est des gens qui ont fait des mauvaises choses. Mais quand tu arrives à un niveau où Allah, il veut même pas entendre le son de ta voix, oulala, qu'Allah nous préserve. Et ce qu'on retient ici aussi de cette ayah, c'est que c'est important de prendre le conseil. D'accord ? J'avais fait un épisode sur le conseil. L'art du conseil, c'était plus dans le sens celui qui doit conseiller, comment il doit le faire, les bienséances pour pouvoir conseiller quelqu'un. Mais il y a aussi le côté, et ça je l'ai moins abordé, quand on nous conseille, comment on fait? Parce qu'il y en a hein, des gens pour qui c'est difficile d'accepter le conseil. C'est pas toujours facile d'entendre quelqu'un nous reprendre ou d'entendre quelqu'un nous donner un conseil, c'est pas forcément c'est une réprimande, mais c'est pas toujours évident d'accepter que quelqu'un vienne nous ajouter quelque chose dans sa conception des choses, etc. et tout, vient nous donner quelque chose qu'on n'a pas forcément demandé. Mais là aussi, c'est très important de savoir entendre le conseil, sans critiquer le statut de la personne qui conseille. Là, par exemple, Harun, ceux qui viennent le conseiller, ce sont des gens qui sont au niveau de l'échelle sociale, on va dire, qui sont en bas par rapport à lui. D'accord ? Et lui, sa réponse a été de les regarder vraiment de haut. Mais genre, vous êtes qui, vous ? Vous êtes qui, déjà, pour... Peut-être qu'il se dit même, il doit même se dire dans sa tête, mais je vous dis même pas me conseiller, mais comment vous osez juste me regarder ? Comment vous osez juste vous mettre debout devant moi, en fait ? Ça veut dire que je suis pas assez impressionnant, en fait, pour que vous osiez même penser que vous pouvez me parler. Tu vois, c'est un peu aujourd'hui, certaines stars, etc., et tout, auxquelles on n'a pas accès directement, il y a des gardes du corps, il y a ça. La personne la plus riche sur Terre, bah, tu ne peux pas venir directement et lui parler comme ça. Tu dois passer la garde, etc., etc. Et quand la personne, tu arrives enfin à elle, est-ce que ça passerait par la tête de la personne de venir et de dire « Écoute, j'ai un conseil, sois pas trop arrogant. Et vis à l'akhira. Et vis quand même ici un peu sur Terre et tout. Et sois pas, sème pas la corruption. Et fais le bien comme Allah t'a donné du bien. » Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait le courage de faire ça? Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et quand bien même ils ouvriraient juste un peu la bouche, juste pour dire « Hey, j'ai un conseil à te donner », une personne n'a même pas commencé à parler, on va dire « Mais tu te prends pour qui en fait ?» Et la question, j'ai envie de la retourner à la personne qui pose la question. Tu te prends pour qui? L'argent. Depuis quand l'argent donne un statut? Je parle sur le plan humain. Ça ne peut pas donner... En fait, quelque chose d'éphémère ne peut pas donner un statut à quelqu'un. Quelque chose d'éphémère ne peut pas donner un rang à quelqu'un auprès d'Allah. Surtout quelque chose que tu n'as pas créé, que tu ne t'es pas octroyé tout seul. C'est comme vouloir se prendre pour quelqu'un ou vouloir être au-dessus des autres parce qu'on a tête très physique, parce qu'on est grand, ou parce qu'on est brun, ou parce que, je sais pas moi, on a les yeux de telle couleur. Ou c'est illogique en fait. T'es en train de faire une compétition avec des gens et aucun d'entre vous n'a choisi ces critères pour lui-même. C'est impossible, en fait, de juger sur ce critère-là. Eh bien, il y a des gens qui font ça avec l'argent. L'argent donne un certain statut social, peut-être. Donne un pouvoir d'achat. Donne une certaine notoriété, peut-être aussi. Mais auprès d'Allah, ça ne te donne aucun rang. Hein. Auprès d'Allah, ce n'est rien. C'est éphémère, c'est dunya. Dunya, Allah, c'est comme de l'eau pour lui. C'est quelques gouttes. C'est rien. Pour lui, c'est rien. Et pour nous, ça semble être tout. C'est impressionnant comment l'être humain peut s'attacher autant à quelque chose qui est que poussière, qui sera que poussière un jour. Et donc, je reviens à ce que je disais, c'est très très important de savoir prendre le conseil de la personne qui le donne au moment où elle le donne, surtout si elle dit une vérité. J'irai même plus loin. C'est important d'entendre aussi ce que ceux qui ne nous aiment pas ont à dire. Parce que la personne qui ne nous aime pas, qui prend le temps de nous dire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout pour argent comptant. Mais même de notre ennemi, entre guillemets, c'est pas très bien d'avoir des ennemis, mais même de quelqu'un qui ne t'aime pas du tout, d'accord, s'il te dit quelque chose, cette personne te dit quelque chose, quand même, prête l'oreille de temps en temps. On apprend toujours quelque chose. On apprend toujours quelque chose. Même si c'est pas sur soi, on peut apprendre, parce que des fois, ce que la personne dit, c'est qu'un miroir de ce qu'elle a envie de se dire à elle-même. En réalité, elle parle d'elle, hein, souvent. Mais même là, t'apprends des choses. Pourquoi est-ce que c'est à toi qu'elle l'a dit ? Pourquoi elle l'a pas dit à quelqu'un d'autre ? Parfois, les haters, les gens qui nous aiment pas, etc. et tout, ils nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Mine de rien, ils essayent de se dire des choses, ils t'envient sur des choses, ils ont des problèmes avec eux-mêmes, ils ont pas le courage de faire face à ça et ils viennent cracher leur venin sur toi. Même en faisant ça, ils te montrent qu'ils te font confiance. Ils te montrent en fait qu'ils ont envie de parler avec toi, qu'ils te jugent suffisamment de confiance en tout cas pour recevoir ce qu'ils ont envie de dire. C'est très abstrait ce que je dis là, peut-être ça semble un peu loin comme idée. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu peux entendre de tout le monde. Et pour ça, il faut avoir un détachement. Ce que la personne dit ne rentre pas dans ton ADN ou sous ta peau en fait. C'est vraiment sa perception des choses qu'elle est en train d'amener. Même si dans ce qu'elle dit, il y a du vrai. Si elle dit « Oh, t'es méchante » ou « Oh, tu m'as mal parlé tout à l'heure », on ne va pas dire « Ah ben non, tu parles de toi ». Non, il faut écouter aussi. Mais avec détachement. Comme Omar ibn Khattab, quand quelqu'un lui parlait, lui disait ses défauts. On ne parle même pas de conseil, un défaut. Il remerciait la personne, il lui faisait des invocations. Parce qu'il s'est dit « Cette personne, elle m'a fait gagner du temps. Elle m'a permis en fait de ne pas m'approcher des péchés ». Dans la ayah suivante, donc là on voit qu'il n'a pas du tout, non seulement il n'a pas apprécié, il s'est encore plus enflé d'orgueil. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, il fait pire. Et ça, c'est le comportement des orgueilleux. Il sortit à son peuple dans son apparat. Donc, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Et là, il y a un autre mot-clé qui revient, c'est zina. La parure, le paraître, ce qui embellit. Donc, quelque chose d'extérieur qui vient m'embellir. Et j'avais dit justement que ce n'est pas ça qui nous donne de la valeur. Ça nous donne une certaine prestance, ça nous rend plus beau, plus belle, plus élégant. Mais ce n'est pas ça qui nous donne de la valeur. Et c'est quelque chose aussi de temporaire, ça va s'enlever. Donc là, Qarun, normalement, il est censé sentir que bientôt, ça va peut-être lui être retiré. Mais il vit comme si c'était quelque chose qui était collé à la peau. Il vit avec ces richesses-là comme si c'était un vêtement qu'il ne devait pas enlever et qu'il ne va jamais s'enlever, qu'il ne va jamais s'user. Donc il fait encore pire. C'est comme si on lui dit ça et dit « D'accord ». C'est comme ça que vous voyez les choses. Et bien l'après-midi même ou le lendemain, il vient avec plus de choses. Et là, cette fois-ci, Allah insiste. Donc il est sorti vers son peuple. Donc il s'est exposé exprès le lendemain pour apparaître, pour montrer ce qu'il avait. Donc sûrement, il a pris son plus beau cheval, le plus cher, ses plus chers habits, ses bijoux, ses gardes. Et il s'est mis à sortir et à passer et à se pavaner. Et ça va les gens, pas trop compliqué la vie aujourd'hui. Ça va, oui. Mais c'est pas le genre de personne qui va donner des conseils, qui va aider ou quoi que ce soit. Vraiment, juste pour narguer les gens. D'accord ? Et là, Allah parle de certaines personnes qui vont le voir. Donc là, Allah précise ceux qui aimaient la vie ici-bas. Donc ceux qui aimaient, qui voulaient hayat ad-dunya, un autre mot-clé qui vient. Donc ceux qui veulent l'éphémère vont voir quelque chose qui est miroité auprès de Qarun et ils vont dire, donc c'est traduit par « si seulement nous avions » comme ce qui a été donné à Qarun, il a été doté certes d'une immense fortune. Bon là, Ça, c'est avec le langage de l'époque. Hein. C'est à l'époque, ils auraient dit ça. Aujourd'hui, avec notre ère en 2024, typiquement, quelqu'un qui regarde, qui scrolle, qui regarde quelqu'un sur les réseaux sociaux, qui a tellement d'argent qu'il les jette dehors, qu'il les dilapide, qui fait des réels qui ressemblent à rien, les réels où il a une voiture de luxe, où il est en train de renverser l'argent dehors, où il... voilà. Vraiment, on envoie des réels comme ça. Les gens savent même plus quoi faire de l'argent qu'ils ont. C'est du n'importe quoi. Et il y a des gens qui bavent devant ça, qui scrollent et qui voient... qui ont tellement l'habitude de regarder ça que dans leurs suggestions, c'est ça qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils scrollent, et là, c'est oh, vraiment, c'est comme si tu disais « Oh, la chance, franchement. Oh, j'aurais bien aimé avoir ce qu'il a. » Si t'avais une maison comme la sienne, tu ferais quoi, toi ? Ah bah, moi, je ferais ça. Ah bah, moi, tu vois, je m'installerais un truc comme ça, je le mettrais comme ça, je ferais ça, etc. et tout. Non, mais vraiment, vraiment, cette personne, elle a vraiment percé. Elle a vraiment... Ça, c'est trop bien. C'est vraiment mon goal. Tu vois la phrase qu'on entend souvent ? Eh, mais c'est mon goal, moi, d'avoir ça. Tu vois ? Et c'est très intéressant qu'Allah parle de zina, donc une parure, en fait. Finalement, quand on voit les gens, nous, on ne connaît pas leur vie. Et là, on n'a pas décrit Qarun, on ne sait pas comment il vit. On ne sait pas s'il a une famille ou pas. On n'a pas. Allah n'a pas zoomé, pour le coup, comme Moussa alayhi salam, sur son background, son vécu, ses épreuves, ce qu'il a vécu, son enfance, etc. En fait, finalement, il paraît très seul. Moi, il me fait de la peine. Hein. Il paraît super seul dans tout son truc. Et justement, s'exposer, se pavaner, voir l'envie dans les yeux des gens, c'est comme si ça le nourrissait. Ça nourrissait un vide, en fait. Et donc, du coup, c'est typiquement le genre de personnes, voilà, qu'on voit sur les réseaux, par exemple, qui sont, finalement, on est en train d'envier une parure, d'envier quelque chose qui s'enlève. Si on retire la parure, qu'est-ce qui reste de Qarun ? Si on retire la parure de certains, en fait, et c'est bête parce que les gens comparent leur vie à quelques secondes qu'ils ont vues de cette personne-là. Et Qarun, c'est pareil. C'est quelques minutes où il passe, les gens, ils ne le voient pas toute la journée. Hein. Il ne va pas rester avec le peuple toute la journée, bien sûr. Il passe. Et quand Allah dit « Fakharaja ala qawmihi », ça se voit que c'est une apparition qu'il a fait spécialement pour l'occasion. Parce que peut-être qu'il avait besoin de nourrir son ego ce jour-là. Tu sais, quand tu reçois, quand t'es comme Qarun, hein, on ne l'est pas, mais une personne orgueilleuse qui reçoit des paroles comme ça, là où il attendait qu'on l'adule, etc. et tout, et qui, un peu contrarié, sa manière de répondre, c'est comme si, en fait, il cherchait à se prouver quelque chose. Il a vraiment les signaux de quelqu'un qui s'estime pas du tout. Donc, du coup, c'est comme s'il se remettait un peu dans le miroir. Non, mais pour qui il se prenne ? Pour qui il me prenne ? Il voit pas, tu vois, les gens qui parlent tout seuls, là, et en même temps... ils se disent « Non, moi, je suis quelqu'un. Bah oui. » Et là, il sort et il dit « Bah, ils vont voir ce qu'ils vont voir. » Et là, il sort devant tout le monde et il en montre encore plus. C'est pareil pour certains qui sont dans un vide pas possible. Là, je parle bien sûr de ceux qui ne croient pas en Allah, qui dépensent, qui sont arrogants, etc. Je ne parle pas de ceux qui sont aisés. De toute façon, les gens qui sont aisés, qui possèdent, qui croient en Allah, qui visent l'akhirah tout en vivant fi dunya, c'est pas eux que tu vois se pavaner sur les réseaux. C'est pas eux. Donc, ceux que tu vois, en général, voilà, c'est moyen. Et donc, c'est dommage, en fait, de comparer, pour ces gens-là, quelques minutes d'apparition de Qarun à leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont à lui envier ? Ils sont les musulmans de l'époque. Ils ont Allah de leur côté. Ils ont un prophète parmi eux. Qu'est-ce qu'ils regardent Qarun, en fait ? Ça n'a aucun sens. En plus, tu envies quelqu'un dont tu sais, en fait, qui va cafeter auprès de Pharaon contre toi. Donc, tu arrives quand même à l'admirer. Et ici, c'est ce qui arrive ici-bas. Je sais, je fais beaucoup le parallèle avec les réseaux. J'aime beaucoup cette comparaison-là parce qu'elle est très parlante, en fait. Et tout le monde y est. Et bien, c'est typiquement ça. Il y a des gens, en fait, ils vont clairement te dire « Je l'aime pas. Lui, je l'aime pas. » Ce sont des haters. Et pourtant, ils regardent leur story et leur truc tous les jours. Ils scrollent ce qu'ils font tous les jours. Ils sont au courant s'ils ont des bad buzz, s'ils sont en dépression, s'ils sont ceci, s'ils n'ont pas posté depuis des jours. Ils sont au courant de tout. Mais ils les détestent. Bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là où normalement c'est Qarun qui devrait les envier pour leur foi, pour leur rang auprès d'Allah, parce que des gens qui souffrent comme ça, bah auprès d'Allah, un homme va vraiment être les récompenser, en plus il va les sauver, c'est Qarun qui devrait les envier. Pas l'inverse. Et là, c'est eux qui arrivent à envier quelqu'un qu'ils devraient limite et qu'ils détestent sûrement, d'accord ? Quelqu'un qui les vend. Et qui s'enrichit, donc vous enviez les richesses qui ont été générées par une trahison, par de la violence, par de la tyrannie. C'est quand même un niveau bas. Hein. Et c'est pour ça que dans la Ayah 80, les gens qui ont appris, donc ceux qui ont le savoir, la science, et Allah remet vraiment les choses à l'ordre. Donc ceux à qui Allah va vraiment donner une vraie science, donc pas celle que Qarun croit avoir, ils disent « Waylakum, thawabullah khayr ». D'accord ? Donc ils disent donc, « Mais qu'est-ce qui vous prend ? C'est traduit malheur à vous ?» Donc aujourd'hui, dans notre langage aujourd'hui, « Mais c'est, ça va pas ? Mais vous vous entendez parler ?» La récompense d'Allah, elle est bien meilleure pour celui qui croit. Donc là, c'est les mots-clés qui reviennent. Celui qui croit, celui qui fait le bien. Amal salih, salaha, islah, le fait de réparer, de faire des bonnes choses, le fait de faire du bien. Donc ceux qui font ça, et ils précisent en fait. Et ça ne sera reçu, cette récompense, que par ceux qui font preuve de sabr. As-sabirun. Pas les autres en fait. La patience. Et dans As-Sabr, on entend quelque chose qu'on cultive, quelque chose qu'on prend le temps de travailler. Donc les belles choses prennent du temps. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient comme de manière vile, comme ce que Qarun a obtenu. Il a obtenu de l'argent facile, rapide. Il s'est pris les faveurs de Pharaon. En faisant quoi ? Tu sais, l'argent qui est gagné de manière illicite. Il faut se méfier des choses qui sont générées rapidement, qui n'ont pas demandé beaucoup de travail, qui ne demandent pas beaucoup de travail au quotidien. Et dont on peut bénéficier comme ça et se pavaner de ça tous les jours comme ça tranquillement. Il faut se méfier de ça. Vous, vous êtes en train de construire quelque chose de plus grand, de plus fort. Vous faites preuve de sabr, d'accord ? Vous croyez en Allah. Vous faites du bien, en tout cas, on l'espère. Qu'est-ce que vous voulez en fait ? Vous avez déjà votre récompense auprès d'Allah si vous faites ça. Donc quand ils disent malheur à vous, ils ont raison. Ça va pas à la tête, mais tu t'entends parler. Limite, eh oh, t'as envie de donner une tape sur la tête à la personne, mais ça va pas. En fait, c'est comme s'ils venaient un peu devant eux. Ce que Qarun est en train de dire ou faire, c'est du vent. Rappelez-vous les choses. Donc là, on voit que quand Allah nous donne une certaine science et quand Allah, en fait, nous veut qu'on voie la vérité, eh bien, il nous fait penser et dire les bonnes choses. Donc là, c'est un autre conseil ici qui est donné et qui remet les pieds sur terre et qui nous fait réviser aussi tout ce qui a été dit jusqu'à présent d'une manière très efficace. Ce que Qarun fait là, oh, c'est comme si là on était sur les réseaux, il y a quelqu'un de sage qui te dit « Eh, tu vas pas comparer 2 minutes de scrolling sur la vie de cette personne-là à ta vie. T'as oublié en fait que tu fais du bien tout le temps, t'as oublié en fait que tu patientes dans l'épreuve que tu vis, t'as oublié en fait que toi t'es musulman, tu pries, tu fais ci, tu fais ça. Tu en vis quoi ? La personne, tu la connais ni d'Adam ni d'Ève, tu sais pas en fait quand elle ferme le téléphone et les réseaux, peut-être qu'elle vit l'enfer. Peut-être qu'avec son mari, c'est de la violence tout le temps. Peut-être qu'elle est en dépression. Peut-être qu'elle boit de l'alcool. Et toi, elle a juste pris une photo. Hein. Qarun, c'est exactement la même chose. Dehors, il se pavane. Mais chez lui, à l'intérieur, on ne sait pas. Peut-être qu'il est déprimé, angoissé, qu'il crie la nuit, qu'il fait des cauchemars. Peut-être. Et sûrement même. Mais c'est pour ça qu'Allah parle de son apparat. Zina. Zina, c'est ce qu'on veut bien exposer aux gens. Mais qu'en est-il de ce qui est à l'intérieur ? La zina, ça se montre. C'est quelque chose qui est apparent. Mais ce qui n'est pas apparent, dans quel état il est ? Quel est son état de santé ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Eh bien, on a fait à peu près le tour, on va dire, de ce passage d'aujourd'hui. Je te retrouve demain pour l'épisode 20, Inch'Allah. Assalamu alaikum.